Voilà, cela nous conduit tout droit à la séance de questions-réponses. Nous avons bien sûr l'équipe pays. Je crois que nos collègues du volet humanitaire sont quand même présents dans la salle et pourront répondre à des questions humanitaires. Nous allons commencer bien sûr par Kinshasa et on me dit souvent que le milieu n'a pas toujours droit à la parole, donc on va aller au milieu. Et ensuite, on va revenir. Bon, ça, c'est pas tellement le milieu, mais bon, vous avez...
Oui, merci Charles pour la parole. Et Albert Romba, Numérica TV. Je voudrais, avant de commencer, au nom des confrères, s'ils le permettent, souhaiter un bon anniversaire à nos confrères de Radio Capi. Et surtout dire merci au général Wafi, qui a été un des meilleurs collaborateurs et un des meilleurs communicateurs avec la presse congolaise. Et ma question, je vais tout droit au colonel Bass. Et il y a eu des opérations qui ont commencé dans le plateau du Tembwe hier avec les FRDC. Et est-ce que ces opérations, même si vous n'êtes pas impliqué, n'ont pas causé de dégâts collatéraux contre la population civile?
Oui, merci pour votre question. Effectivement, nous avons reçu confirmation de l'état-major des FRDC du début des opérations Sukola 2 lancées dans la province du Sud Kivu et visant à neutraliser les forces démocratiques de libération du Rwanda qui sont présentes dans cette partie du territoire congolais. Concernant les détails relatif à cette opération, pour le moment, nous n'avons encore reçu aucune information parlant de dégâts collatéraux ou en tout cas de déplacement de population ou de crise humanitaire qui pourrait survenir suite au lancement de cette opération. Je veux juste saisir cette occasion pour dire que cette opération Sokola 2, en prélude à son lancement, avait déjà été initiée dans le cadre de l'opération Kamilisha Usalama, qui préparait, en d'autres termes, le lancement de cette opération dans la province du Sud Kivu. Kamilisha Usalama 2 avait pour vocation première la neutralisation du groupe FNL qui cohabitait avec les FDLR dans la province du Sud Kivu, particulièrement dans le territoire d'Ivoire. Oui, nous avons nous confirmons effectivement le début de ces opérations, mais des informations beaucoup plus approfondies ne nous sont pas encore parvenues. Merci.
Merci. Général, vous avez quelque chose à ajouter sur ces opérations qui ont commencé? Non. Pas vraiment. Il faut simplement dire une mission conjointe HCR et DDR, la section DDR de la MONUSCO, va se rendre un peu dans les localités pour voir s'il y a un besoin d'appui humanitaire. On attend donc pour voir éventuellement si il y aura des informations au retour de cette mission, mais c'est vraiment pour soutenir d'éventuelles populations déplacées suite au début de ces opérations. Pour l'instant, comme le dit le colonel, nous n'avons pas plus amples informations. Nous allons rester toujours ici sur la droite avec une question. Présentez-vous, monsieur, et une question, pas une série de questions, une.
D'accord, merci. C'est Isaac Nguenza pour le compte Congo Opportunities Media. Je vais droit à la question, mais avant, je dis d'abord bon anniversaire à la Radio Capi. Ma question est relative à ce que vous venez de développer tout à l'heure. Vous dites que la MONUSCO est toujours disposée à soutenir le processus électoral. Malumalu a publié un calendrier qui est remis en question par une frange de l'opposition. Je vais parler de l'IDPS, qui continue à soutenir un dialogue pour mettre en place un calendrier électoral consensuel. Quel est votre point de vue par rapport à la démarche de l'IDPS? Merci.
Vous savez très bien que nous avons répété ici que la résolution 2147 est claire. Elle donne comme mission réellement à la MONUSCO les bons offices. Et ces bons offices sont enclenchés depuis longtemps, non seulement par Martin Koubler, mais par ses différents adjoints que sont M. Wafi, M. Soumari, et même des chefs de division comme le chef de la division affaires politiques, qui essaie de s'impliquer dans ces bons offices pour que l'entente, la cordialité et, j'allais dire, une feuille de route claire soit trouvée au niveau donc de la préparation de ces élections. Maintenant, pour les détails, cela relève bien sûr de la vie politique nationale. Nous ne pouvons pas nous mêler, de savoir si oui ou non il est de bon ton d'avoir ce genre de discussion, mais effectivement, dans la vie politique des différents partis politiques, je crois qu'il leur revient de faire un certain nombre de discussions internes pour trouver, les chemins pour aller à ces élections. Nous, pour ce qui nous concerne, nous en tenons à ce bon office et nous pensons savoir que tout va dans le bon sens. Nous avons les différents représentants de la MONUSCO ont rencontré une échelle variée de partis politiques, d'organisations de la société civile, des confessions religieuses, et nous allons continuer à notre niveau à travailler sur ce chapitre, non seulement à Kinshasa d'ailleurs, mais aussi à l'intérieur du pays, dans les provinces, dans les différentes provinces du pays. Voilà un peu ce que nous pouvons dire là-dessus. Général Wafi.
Non, je pense que le calendrier a été, comme il a dit, publié. Maintenant, il appartient à la CENI et à l'ensemble des acteurs politiques de discuter des modalités pratiques. Mais je pense que ce calendrier n'est que le premier pas d'un processus, parce qu'il y aura beaucoup de négociations pour faire en sorte que ce calendrier soit traduit dans la réalité en opération électorale. Donc, il est tout à fait normal, je pense, que les partis, les différents acteurs politiques s'expriment sur le calendrier électoral.
Nous allons passer plutôt sur la gauche, hein, même si, avant d'aller à Goma, on a un micro de ce côté. Oui, allez-y, présentez-vous et puis une question, s'il vous plaît. Allez-y. C'est bon, je crois,
c'est
allez-y.
Bon, oui. Oui. Voilà, je suis Anthony Chamba, de Raga Télévision. Général, j'aimerais savoir, est-ce que la MONUSCO a des informations concernant l'ensemble des opérations que les FRDC sont en train de mener contre le FDLR? Est-ce que vous avez des informations sur l'ensemble de ces opérations? Ensuite, est-ce que... C'est la même question, s'il vous plaît.
Chaque semaine, vous faites le
c'est
même...
C'est le prolongement de la question. Est-ce que...
Vous ne convainquez pas vos collègues journalistes.
Hein. Non, c'est la même question. Est-ce que vous trouvez normal que le chef de l'État, que l'ensemble du gouvernement apprenne que la MONUSCO arrête de collaborer avec les FRDC par la voie des ondes à cause de la présence de deux généraux que les Nations Unies ont qualifiés d'avoir violé les droits de l'homme? Est-ce que vous trouvez normal que les chefs de l'État et le gouvernement l'apprennent par voie des médias? Merci.
Merci, je voudrais répondre à cette question. Je crois qu'en ce qui concerne la situation à laquelle vous faites allusion, le président de la République lui-même en personne s'est exprimé. Il a dit ses préoccupations, il a dit par rapport à cette opération, mais aussi, d'une façon générale, l'ensemble de la coopération du partenariat avec la MONUSCO. Nous avons bien noté les préoccupations du président de la République, du gouvernement, y compris sur l'opération contre les FDLR. Nous sommes en contact avec les autorités politiques pour créer les conditions d'une reprise du dialogue politique et pourquoi pas pour solliciter auprès du président de la République qu'il puisse reconsidérer sa position, parce que, encore une fois, nous avons la conviction que les autorités politiques veulent bien lancer ces opérations contre les FDLR. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous avez entendu le porte-parole des FRDC, le général Kasongo, faire même état du bilan de ce qui est en train de se produire. Dans notre mandat, contribuer, supporter les FRDC à neutraliser tous les groupes armés, y compris les FDLR, sont extrêmement importants à nos yeux. Et c'est pour cela que nous pensons, dans les jours à venir, pouvoir influer l'ensemble du processus pour non seulement améliorer le soutien que nous apportons au FRDC, mais aussi créer les conditions d'un bon partenariat sincère, ouvert, franc et productif.
Direction Goma, trois questions s'il vous plaît.
Allez-y d'abord, vous. Oui, merci pour l'expression. C'est Darrel Maurice, canal 7 Kinshasa Télévision. Et je m'en vais directement pour poser la question à Général Wafi. Quelles recommandations faites-vous au gouvernement congolais afin de décanter la situation de la partie Est? Je parle au terme des tactiques militaires. À vous.
J'ai pas bien compris la fin de la question. Hein. Est-ce que vous pouvez reprendre la fin de la question? C'était pas très clair ici.
Non, c'était juste une seule question. Je disais ceci. Quelles recommandations faites-vous au gouvernement congolais, en particulier les ministres de la Défense, afin de décanter la situation qui date à l'est de la République démocratique du Congo?
Décanter la situation, c'est un peu bien vague, mais est-ce que vous avez compris, vous?
Non, mais écoutez, je crois que par rapport à la situation sécuritaire à l'est du pays, par rapport à la présence encore de certains groupes armés, je crois qu'il n'y a pas question de recommandation. Il y a une volonté politique clairement affichée par les autorités politiques, pas seulement le ministre de la Défense, pas seulement les FRDC, mais y compris le président de la République, qui est chef suprême des FRDC, de neutraliser l'ensemble des forces négatives à l'Est. Et je crois que cela est clair. Hier, le M23, aujourd'hui, les ADF dans le nord Kivu, aujourd'hui, dans le sud Kivu avec les FDLR, nous n'avons aucun doute sur la volonté et de plus en plus la capacité des FRDC à opérer, à neutraliser. Donc, nous nous réjouissons de ces opérations et nous nous réjouissons de voir de plus en plus les FRDC prendre réellement à bras le corps en charge la sécurité, l'intégrité territoriale. Je crois qu'il faut s'en féliciter parce que notre objectif, c'est de les appuyer pour être plus efficaces. Et aujourd'hui, depuis la lutte contre le M23 et les ADF, on voit de plus en plus une combativité, un professionnalisme et une efficacité vraiment des FRDC. Et l'objectif final de la mission, c'est de contribuer à cela.
Deuxième question à Goma.
Allez-y.
Merci. Moi, c'est Viviane Zabari, d'après les comptes de la radio, Moutani FM à Goma. Ma question est adressée au général Wafi, le représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies. En fait, la question, c'est par rapport à l'amnistie, la question de l'amnistie fait couler de l'encre et de salive pour la question de son applicabilité, étant donné que certains amnistiés sont encore en prison, alors que la Monisco aussi a aussi commission de protéger les droits de l'homme. On peut savoir si vous aussi vous êtes en train d'entrevoir cette loi d'amnistie qui a été certainement taillée sur mesure.
La loi d'amnistie concernant...
Je pense qu'il doit faire allusion à la loi d'amnistie pour les M23.
Non, écoutez, la loi d'amnistie qui a été votée, qui a été mise en œuvre, en son temps, nous nous sommes réjouis de cette loi d'amnistie en ce qu'elle écarte de son bénéfice tous ceux qui se sont rendus coupables de graves violations des droits de l'homme, y compris le recrutement d'enfants, y compris les violences sexuelles, et donc les personnes qui sont éligibles et qui ont été amnistiées, jusqu'à preuve du contraire à ma connaissance, l'ont été uniquement pour faits de rébellion et de mutinerie. Mais pour tous ceux qui ont commis des violations de graves des droits de l'homme, il a été clairement dit, et ça je peux l'attester, je peux vous le garantir, ils le savent, ceux-là seront poursuivis et certains font déjà l'objet de mandats d'arrêt pour qu'ils aillent répondre de leur forfait devant les juridictions. Donc je ne comprends pas le sens de votre question.
Non. Troisième question à Goma.
Allez-y. Donc, moi, c'est Jérémy de la radio Taïna. Oui, là, vous quittez, selon certaines sources, Abdallah Wafi, vous quittez la RDC avant votre fait mandat. Est-il vrai? Et si c'est vrai, pourquoi vous allez si vite? Est-ce que vous ne craignez pas que vous pourriez être jugé aussi personne non agréable en RDC, les autres plateaux, vous allez si vite?
Alors, je vous remercie de me donner l'occasion de répondre à cela. D'abord, je suis venu pour un mandat de 1 an. Je l'ai renouvelé 6 fois, ce qui m'a mené. Et je reste un des plus anciens dans la MONUSCO au niveau de leadership. Pour la petite histoire, à la position que j'occupe, en général, on ne dépasse pas 2 à 3 ans. Donc, j'ai une durée de vie exceptionnelle. Et si vous voulez le savoir, ce n'est pas un secret. L'ensemble de mes partenaires congolais, que ce soit au niveau national, les membres du gouvernement, l'ensemble des gouverneurs de province que j'ai rencontrés, à commencer par Julien Paluku, que je salue au passage, qui m'a élevé à la dignité de citoyen d'honneur de Goma. D'ailleurs, je vais revenir, hein, je le promets. Je reviendrai à Goma, je vous le promets. Et donc, je pars de la RDC avec les meilleures relations possibles avec les populations congolaises, avec les autorités centrales, avec les autorités provinciales, avec les ONG, la société civile, avec l'ensemble des acteurs politiques de gauche comme de droite, et y compris la presse qui est ici représentée.
Merci. On revient ici à Kinshasa pour prendre une question sur sur la gauche d'abord. Hein. Où est le micro? On peut donner le micro à côté là. Il y a une dame, voilà. Ok, on va vous donner le micro. Allez-y, madame. Oui, allez-y, le son est là.
C'est Paulette Elunga, Africa FM. Ma question s'adresse à Abdallah Wafi. Vous êtes fin mandat. S'il faut que vous fassiez un bilan par rapport à la politique congolaise, que diriez-vous?
En deux mots, hein.
Alors, sinon, vous me posez une question, j'aurais besoin peut-être de plusieurs heures pour répondre. Mais très brièvement, moi je pense que la politique de la RDC est à l'image aussi du pays. C'est-à-dire, globalement, beaucoup de progrès ont été réalisés. Il y a des difficultés pour une démocratie naissante. Il y a encore des enjeux de taille, notamment le processus électoral qui s'annonce. Mais, jetez un coup d'œil. Regardez ce qui s'est passé depuis la transition, depuis les élections de 2006 à aujourd'hui. Je crois que la RDC revient de loin, et sur le plan politique aussi, l'amélioration est là, mais ça reste fragile. Il faut soutenir ce processus. Il faut aider à avancer dans la voie de la démocratisation pour que les prochains cycles électoraux qui vont se dérouler se passent dans la transparence, de façon apaisée et dans la paix. C'est cela qui permettra de juger si oui ou non, réellement, la politique en RDC a fait des progrès.
On va rester toujours là. Il y a une dame qui voulait poser une question. Vous avez le micro, là? Où est le micro pour la dame, s'il vous plaît? Présentez-vous, le nom de votre organe, et une question sans prolongement, comme votre voisin, d'ailleurs, de Raga.
Oui, mais elle rencontre un peu celle de ma consoeur d'Africa TV. C'est Grace Ngui qui est de la Référence Plus. Ma question s'adresse au général Wafi. En fait, je voulais savoir si vous êtes un peu convaincu d'avoir réussi votre émission ici en RDC. Si oui, par exemple.
Écoutez, comme l'a dit M. Bambala, quand je suis arrivé ici, je suis arrivé comme adjoint chef de la police. 6 mois après, j'ai été nommé chef de la police. 2 ans après, j'ai été nommé représentant spécial adjoint par intérim. 3 ans après, je suis confirmé représentant spécial adjoint. Je crois qu'il ne me reste plus qu'à rester pour remplacer M. Kobler quand il va partir. Alors, maintenant pour parler du bilan, moi je préfère les Congolais eux-mêmes s'exprimer. Poser ces questions au chef de la police, le général Bisangimana, au général Oleko Jean de Dieu, au général Raouz, poser la question à tous ceux avec qui nous avons collaboré, au ministre de la Défense, ou à l'UMPNDDR, dans le cadre des actions de stabilisation aux provinces, dans les différentes provinces, au gouverneur de province Masrin Chisambo, ou à Julien Paluku, ou à Bamanissa. Ils sont mieux placés que moi pour faire le bilan et donner l'appréciation qu'ils font de ce qu'ils ont fait. Je vous remercie.
Voilà, je sais que nos collègues de Radio Capi vont continuer leurs émissions tout à l'heure avec le journal, mais nous avons pour la dernière fois le général Abdallah Wafi. Nous allons donc continuer pendant 10 minutes à peu près encore cette séance de questions-réponses. Mais on va aller sur la droite maintenant, au milieu. Est-ce qu'on a un micro quelque part au milieu? Oui, allez-y, oui, donnez le micro s'il vous plaît.
Roger Marley, le Congo Journal, Le Paris. Tout le monde a crié si bon anniversaire à Radio Capi. Mais il y a un anniversaire qui nous est passé sous les nez et personne n'y a fait allusion. C'était le 24 hier, le deuxième anniversaire de l'accord cadre d'Addis Abeba. Alors, en rapport à cet anniversaire-là, il s'est écoulé 2 ans depuis que cet accord...
Radio Okapi. Okapi.
Les titres de cette édition, poursuite des opérations de traque contre les combattants rwandais FDLR au Sud-Kivu. Hier après-midi, les FRDC ont procédé au ratissage à Kacheke. Ce village est situé à plus de 30 km à l'ouest de l'Emera Centre, dans la chefferie des Bafouliru, en territoire d'Ouvira. Conflit intercommunautaire en territoire de Nyunzu au Katanga. La police demande le renfort de l'armée pour mettre fin aux exactions des pygmées sur les Bantous. Comment relancer le tourisme au Nord Kivu en dépit des guerres récurrentes dans la région? Les acteurs du secteur ont échangé hier avec le ministre des tutelles sur la question. Le point dans ce journal. Bonjour à tous. Les FARDC poursuivent les opérations qu'ils ont déclenchées depuis hier contre les FDLR dans les moyens plateaux d'Ouvira, précisément à Kanyovu, dans le groupement de l'Emera en chefferie des Bafouliru. Les dépendants de ces combattants hutu-rwandais se sont détachés d'eux lors des affrontements en fuyant vers Bibangwa, Mouroulé et dans le groupement de Katala. Les habitants de Kanyovu sont aussi en déplacement vers Sangué. Les sources militaires au front ne fournissent aucun bilan jusqu'à présent. Jean Kassami nous en dit plus.
Ces opérations dénommées Sokola 2 ont permis hier au FRDC de déstabiliser les FDLR dans certaines positions, mais sans les anéantir. Selon nos sources locales des organisations des droits de l'homme, les FRDC se sont bien comportés envers les populations civiles. Toutefois, les dépendants des FDLR, les enfants et les épouses qui vivaient à Nyundwe et Ilévoué se sont séparés des combattants en faisant mouvement vers les localités Bibangwa, Mouhoule et Katala. Ils ont envie de poursuivre leur mouvement vers Sangue pour rejoindre les autres civils déplacés de Kanyovu, mais ils sont bloqués par la peur de tomber sur les FRDC qui risqueraient de les considérer comme des combattants. Les chargés de programme au sein du Centre indépendant de recherche et d'études stratégiques au Kivu renseignent que leur équipe procède au monitoring et au rapportage de ces déplacés et qu'il y a lieu que le nombre augmente. Oscar Abed indique qu'il n'est pas au courant du bilan des opérations, mais il déplore le fait que les FDLR sont poussés dans la forêt d'où ils pourront se réorganiser. S'agissant toujours du bilan, le commandant adjoint en charge des opérations a promis de nous en parler ultérieurement. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Restons au Sud-Kivu. Le président de la société civile de Niabibwe appelle la hiérarchie militaire à permuter des éléments FRDC basés à Niabibwe. Selon Delphin Birimbi, les éléments du 331e secteur FRDC basés à Niabibwe sont auteurs de plusieurs cas d'insécurité. Dans un entretien avec la presse locale, il fait état de 4 assassinats, agressions physiques et vols à main armée à répétition depuis fin décembre 2014. Le dernier cas date d'hier, a-t-il ajouté. Pour lui, il s'agit d'un militaire FRDC blessé la nuit dernière par ses deux compagnons d'armes du 331e secteur FRDC basé à Niabibwe. Il revient sur son appel au téléphone d'Ezekiel Batumike de la radio communautaire Bubandano de Minova.
En tout cas, nous nous sommes indignés de voir des mauvais comportements de la part des militaires FARDC déployés dans notre milieu ici à Niabibwe. On enregistre des assassinats, il n'y a pas des enquêtes, nos éléments de FARDC ne font pas de suivi. On ne sait pas si nos militaires sont là pour sécuriser la population. Il faut que vraiment l'État congolais aussi puisse penser, puisque c'est comme si nous sommes oubliés par l'État. Sinon, lorsque vous voyez un militaire qui se promène, qui tire des cartouches sans cause, sans raison, qui est une permutation de ces militaires, qui sont vraiment déployés dans d'autres milieux et qu'on nous amène d'autres militaires qui sont formés, bien éduqués, aussi qui maîtrisent la déontologie éthique militaire.
Au nord Katanga, exaction des pygmées sur la population Luba à Mukimbo, en territoire de Nyunzu, une localité située à 190 km à l'ouest de Kalemi. Le commandant du commissariat de la police nationale congolaise a sollicité l'intervention des militaires FRDC de la garnison de Nyunzu. François-Xavier Mibé.
L'alerte est venue du commandant de la police nationale locale, relayant le chef de poste de la PNC basé à Mukimbo, en territoire de Nyunzu. Le commandant de la PNC a sollicité un renfort des éléments de FRDC pour faire face aux exactions des pygmées sur les populations locales de la communauté des Bantous. Le chef de poste de la PNC confirme aussi ces exactions perpétrées en week-end dernier, allégations faisant état d'attaque des pygmées sur un hameau situé à 6 km de Mukimbo. Les pygmées ont pillé des biens des populations et se sont volatilisés dans la nature. L'autorité territoriale envisage dans un proche avenir une mission dans les secteurs en vue de la sensibilisation des communautés à la cohabitation pacifique. Une cohabitation aujourd'hui perturbée par des conflits intercommunautaires. Kalemi, François Xabemi, Radio Okapi.
En province orientale, plusieurs centaines de personnes affluent dans les cités de Niania et Bafouassendé depuis jeudi dernier. Ce sont des expulsés de la réserve de faune à Okapi RFO en provenance de la localité de Badengaido. Ces gens sont pour la plupart des orpailleurs et leurs dépendants ainsi que des commerçants qui y avaient élu domicile. La société civile de Bafouassendé demande au gouvernement de penser urgemment à leur encadrement. Des explications avec Anselme Massé.
L'administrateur assistant du territoire de Mambasa, François-Xavier Bokba, affirme que plus de 10 000 personnes ont été expulsées de la RFO par les gardes des parcs depuis mardi dernier. Les gardes ont été appuyés par une compagnie de FRDC de la zone opérationnelle de l'Ituri. Selon le vice-président de la société civile de Bafouassendé, environ 1 500 expulsés sont arrivés à Niania. Plus ou moins 100 d'entre eux ont gagné la cité de Bafouassendé. Toujours selon la même source, certains parmi eux sont allés dans des familles d'accueil, mais la majorité passe nuit à la Belle Étoile. Tout en redoutant l'insécurité du milieu suite à l'afflux de ces expulsés, la société civile de Bafouassendé appelle les autorités à leur assurer un encadrement, sinon une assistance adéquate. Le week-end dernier, précise notre source, la cité de Bafouassendé a enregistré 3 cas de vol au centre commercial. Cet acte a poussé le conseil territorial de sécurité de Bafouassendé à renforcer depuis hier lundi les patrouilles nocturnes. Signalons que ce déguerpissement fait suite au refus de certaines personnes de quitter tranquillement la RFO depuis le 27 septembre dernier sur instruction de l'autorité provinciale. Kisangani, Anselme Massoa, Radio Okapi.
Retour au Katanga, l'audience qui oppose le ministère public à 25 éléments Maïmaï Bakata Katanga s'est poursuivie hier mardi au tribunal militaire garnison de Kipushi. Ils sont poursuivis pour mouvement insurrectionnel. Ils ont été arrêtés munis d'armes blanches et armes à feu il y a 9 mois sur la route de Kasenga dans les villages Kasongo, Londé et Fouala dans les territoires de Kipushi. Signalons parmi eux la présence du chef du village Fouala. À l'audience d'hier mardi, le ministère public devrait prononcer son réquisitoire, mais les avocats de la défense se sont désistés de plaider à des charges des prévenus. Ils ont exigé au préalable leur paiement par leurs clients. Ainsi, l'audience a été renvoyée à samedi prochain. En mission de travail à Goma, le ministre du Tourisme et les opérateurs du secteur touristique Nord Kivu ont réfléchi hier mardi sur les voies et moyens de relancer le tourisme dans la province. C'est depuis plus de 20 ans en effet que le secteur touristique va mal au Nord Kivu, pourtant qualifié jadis de la Suisse de l'Afrique. Compte rendu de ses concertations avec Alain Wandimoy.
Les opérateurs touristiques participant à la réflexion de Goma n'ont pas caché au ministre leur réflexion pour sortir ce secteur de sa léthargie. Cela malgré les gueules récurrentes, la qualité de service à offrir aux touristes, les taxes et le manque d'une politique touristique bien claire. Les opérateurs du secteur touristique restent toutefois confiants et optimistes. Pour sa part, le ministre du Tourisme attend beaucoup de la population du Nord Kivu, car dit-il, le tourisme est l'affaire de la population. L'effort des opérateurs du secteur touristique au Nord Kivu a été salué par le ministre, mais beaucoup reste à faire. Le Nord Kivu, faut-il le rappeler, dispose d'énormes potentialités touristiques et bien d'autres atouts, notamment le volcan Nyiragongo, la beauté du lac Kivu, mais aussi le parc national de Virunga et les collines verdoyantes de Masisi. Mais pour tout cela, il faut que la sécurité soit assurée, ce qui n'est pas encore le cas, mais l'espoir n'est pas perdu. Goma, Christian Mapendano, Radio Okapi.
Terminons par cette nouvelle. Début hier mardi à Bunia de la réunion du caucus des parlementaires nationaux de l'Ituri. Plusieurs enjeux politiques sont à l'ordre du jour, notamment le découpage territorial, la sécurité et l'exploitation illégale de minerais en Ituri. 5 députés provinciaux sont également invités à ces travaux. Le rapporteur de ces travaux, le député Abdallah Penembaka, revient sur les défis qui attendent ces parlementaires. Il est au micro de Martial Kiza.
La particularité, c'est que nous sommes dans un moment charnière où nous devons passer du district à la province. Et la demande de l'érection et de la reconnaissance de la province de l'Ituri a toujours été une de nos préoccupations. Et aujourd'hui, il y a la province qui va venir. Il y a des défis qui nous attendent, qui attendent l'Ituri. Et l'Ituri, alors que d'autres se taisaient, les Ituriens ont toujours continué à réclamer leur province. C'est-à-dire aucune erreur n'est permise, les Ituriens ne doivent pas échouer. C'est une province qui doit rester au peloton. Nous devons réussir. Voilà un peu les défis que nous devons tous ensemble. Ça, c'est exclusion. Chacun des fils de l'Ituri. Et même ceux qui ne sont pas de l'Ituri, ils doivent se retrouver dans les processus.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et Christian Mulumba Kalumba nous apporte à présent les nouvelles sportives.
Bonjour, l'ASV Club s'est imposé face au Cercle Sportif Don Bosco par 1-0 en match en retard de la deuxième journée des playoffs du championnat national de football mardi au Stade Tarafayel. C'est le meilleur joueur africain évoluant sur le continent, Firmin Moubele Ndombé, qui a débloqué la situation pour les Dauphins Noirs avec une frappe lourde de près de 20 mètres à la 66e minute des jeux. La fin de la rencontre a été marquée par l'expulsion de Yannick Moulenda pour accumulation de 2 cartons jaunes. Avec ses succès, les clubs totalisent 4 points et se donnent un peu d'air après son nul de la première journée face à Loupopo. Avec 1 point, les Salésiens de Don Bosco sont condamnés au succès lors de la réception du Daring Club Montempembe samedi au stade tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Au championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa, 3 matchs sont au programme cet après-midi au stade de Tata Raphaël. Le Cercle Sportif La Fraternité Quinoise rencontre New Jack FC et le Jack Héritage croise le Faux Club Nzaki Mouena et la Jeunesse Sportive de Kinshasa joue contre le FC System. La Coupe d'Afrique des Nations de football U17 est à l'étape des demi-finales à partir de ce mercredi au Niger. Qualifié pour le dernier carré, le Nigeria, le Mali, l'Afrique du Sud et la Guinée vont se battre pour les 2 places qualificatives pour la finale. Mais au terme de la phase des poules, 34 buts ont été inscrits au total, 11 après la première journée, 12 lors de la deuxième, puis 12 pour la troisième. La palme de la meilleure attaque est désormais détenue par l'Afrique du Sud, auteur de 7 buts, le Mali et le Nigeria suivent avec 6 réalisations. Les Nigériens Kelechi Nwankali et Victor James occupent la première place du classement des meilleurs buteurs avec 3 buts chacun, tout comme le Malien Boubacar Traoré, encore en lice. Le Sud-Africain Nelson Maluleke compte lui 2 réalisations. En Europe, le FC Barcelone, auteur d'une première mi-temps de haut vol, s'est imposé par 1-2 sur la pelouse de Manchester City mardi soir à l'occasion des 8e de finale aller de la Ligue des champions. Suarez a signé un doublé aux 16e et 30e minutes des jeux. Aguero a réduit le score pour Manchester à la 69e. Messi aurait pu alourdir le score à la dernière seconde sur un pénalty qu'il avait lui-même provoqué, mais l'Argentin a vu Hart, le porté de Manchester, repousser son tir. La Juventus Turin a battu le Borussia Dortmund par 2-1, un avantage minimaliste pour le club italien avant le match retour programmé le 18 mars prochain. Ce soir, Arsenal reçoit Monaco et le CSKA Moscou affronte Malaga. Le mondial 2022 au Qatar débuterait le 26 novembre et se terminerait le 23 décembre, selon la recommandation formulée mardi par le groupe de travail de la Fédération internationale de football. La mise à disposition des joueurs serait prévue le 19 novembre, une semaine seulement avant le début du tournoi qui serait raccourci par rapport au format habituel. Plus les détails avec Berry Luchaka.
La décision finale doit être prise le 19 mars lors d'un comité exécutif de la FIFA à Zurich. Si ces dates sont bien celles retenues par le comité exécutif, le Mondial 2022 durera 4 semaines. À titre de comparaison, le Mondial 2014 au Brésil s'était tenu du 12 juin au 13 juillet, soit 4 jours de plus. Par ailleurs, selon les recommandations du groupe de travail, la Coupe des Confédérations aurait-elle lieu aux dates habituelles, c'est-à-dire entre juin et juillet 2021, mais dans un autre pays de la Confédération Asiatique. Le Mondial des clubs pourrait, lui, être organisé au Qatar en novembre-décembre 2021 et servir de répétition au Mondial. Ces derniers Ces derniers points devraient également être discutés en mars à Zurich, une option soutenue par l'UEFA et la CAF. Mais les clubs européens voient d'un mauvais œil cette proposition, une affaire donc à suivre.
Démarré le samedi 21 février au terrain de l'Alliance franco-congolaise de l'EMBA, le championnat de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, l'IFRO Bakin, s'est poursuivi hier sur le même terrain. De rencontres étaient à l'affiche, mais aucune n'a eu lieu. Elles se sont soldées toutes deux par forfait. Vidjana a perdu devant Atari chez les dames 0-20, tandis que Mukasa chez les messieurs a gagné face au Daring Club Motempembe. À suivre ce mercredi au Stadium Inka, Ista contre ses fourbacs chez les messieurs et les amitiés Kola chez les dames. En athlétisme, Ilunga Mandé Zatara prendra part le vendredi 27 février au semi-marathon de Djibouti. Le Congolais, qui sera sa troisième participation consécutive, quitte Kinshasa aujourd'hui. Les deux premières participations se sont soldées par une huitième place chaque fois. Par ailleurs, les juniors congolais sont attendus du 5 au 8 mars à Addis Abeba en vue de prendre part au 22e championnat d'Afrique de la spécialité. Notons aussi que le président de la Fédération d'athlétisme du Congo, Bienvenue Matenda, a été élu membre de la région centre de la Confédération africaine lundi dernier. C'est la fin de ce journal de sport. Merci de nous avoir suivis.
Okapi, Okapi, Okapi.
Merci Christian Moulumba Kalumba. Nous entamons sans plus tarder chez notre grand tour des provinces.
Toutes les infos de l'ensemble de notre pays.
Les titres de ce tour des provinces, la Banque mondiale satisfaite des réalisations à Lubumbashi du programme multisectoriel d'urgence de réhabilitation et de reconstruction PEMUR en sigle. Plus de détails tout à l'heure. Clôture aujourd'hui à Mbujimayi d'un atelier sur l'éducation civique par l'Institut des stratégies pour le développement rural. C'est à l'intention des organisations de la société civile. Dans ce tour des provinces, nous serons également à Kalemi, à Goma et enfin à Bounia. Commençons par la ville de Lubumbashi où la Banque mondiale s'est dit satisfaite de la réalisation du projet PEMUR, programme multisectoriel d'urgence, de réhabilitation et de reconstruction dans son volet adduction d'eau en milieu urbain. Nous en parlons avec Karine Topé. Bonjour Karine.
Bonjour Jocelyne, c'était au cours d'une audience avec le gouverneur de province ce mardi que les représentants de la Banque mondiale ont fait cette déclaration. Pour ces derniers, l'objectif de ce projet était d'alimenter en eau potable tous les quartiers de la ville, mais surtout les nouveaux quartiers qui souffrent de la pénurie en eau potable, ce qui a des conséquences fâcheuses sur la santé avec notamment les maladies hydriques telles le choléra. Le gouverneur de province s'est lui dit aussi satisfait de ce projet. Moïse Katumbi a promis de plaider auprès de la Banque mondiale pour un projet PEMUR 2, vu le nombre de la population louchoise qui a quadruplé en quelques années.
Dites-nous Karine, quels sont les quartiers de la ville qui ont les plus été servis par la régie des eaux?
Selon la régie des eaux, Jocelyne, le plus grand travail a d'abord consisté à améliorer la production, le transport et la distribution de l'eau. Et c'est la ligne qui mit le lot 1 vers le centre-ville qui était d'abord concernée, toujours selon ces mêmes sources. Cette ligne dessert les deux tiers de la ville, notamment le quartier Jikamine, le Golf, une partie de la commune Kampemba, précisément les quartiers de l'air et industriel. À cette liste, il faut aussi ajouter une partie de la commune Kamalondo, rapporte toujours la régie des eaux. Mais au-delà de ces quartiers, Jocelyne, la régie des eaux affirme avoir amélioré le réseau de distribution, ou mieux, la tuyauterie devenue vétuste notamment dans les communes Katouba, Lubumbashi et Kampemba. La régie des eaux dit d'abord avoir servi les quartiers déjà existants et que seul le quartier Kra a été servi parmi les nouveaux quartiers de la ville.
Karine Topé, Eridassi, merci. Direction Kananga, au Kasaï occidental, André Kambala nous parle de l'Assemblée générale élective du Conseil agricole rural des gestions. Bonjour André.
Bonjour Jocelyne. Plus de 30 coopératives agricoles membres du Conseil agricole et rural de gestion viennent de terminer cette assemblée générale élective. Le CARGE, comme on l'appelle en abrégé, c'est le regroupement des structures du secteur agricole qui consiste à organiser les paysans en coopérative en vue de développer les filières porteuses, mettre ensemble ces agriculteurs pour développer les innovations. Il s'agit aussi de réunir les parties et les former dans le domaine agricole, la pêche, l'élevage, les infrastructures de base et la transformation des produits. À l'issue de cette assemblée générale, c'est l'ingénieur Dieudonné Ndaye qui devient le nouveau président provincial du CARGE.
Quelles sont les missions prioritaires de ce nouveau comité?
D'après lui, les priorités sont tirées sur le besoin de la province en ce domaine. C'est donc sceller la collaboration entre la province et les agriculteurs, former les paysans en coopérative, rendre les associations paysannes aptes en vue d'augmenter leur production, créer des innovations dans ce secteur agricole en vue de retrouver les anciennes marques qui faisaient du Cassa occidental un gâteau agricole. Tout ceci en vue de lutter contre la malnutrition aiguë qui a élu domicile dans 6 des 10 territoires. Les enquêtes du CARGE ont même révélé que la zone de santé de Lubondaï dans les territoires de Dibaya connaît une malnutrition de l'ordre de 26%. Il s'agira enfin de redynamiser le CARGE dans les territoires pour organiser les réunions mensuelles en vue de remonter les informations et les priorités dans la lutte contre l'insécurité alimentaire.
André Kambala Moujanaï, merci. Nous allons au Kassai oriental voisin et se clôture ce mercredi à Mbujimayi un séminaire de formation ouvert depuis hier en faveur des membres des organisations de la société civile. Nous en parlons avec vous, Chris Moukande. Bonjour.
Jocelyne Moussaou-Pondé, bonjour. Ce séminaire est organisé par l'Institut des stratégies pour le développement durable. Ils prennent part les membres des organisations de la société civile. Ils sont également associés les responsables chargés des programmes dans les différentes chaînes de radio et télévision de la ville. Le thème principal est la RD Congo et le défi de la refondation de l'État. Ces travaux bénéficient de la collaboration de l'association, plutôt de l'Action pour le développement et la gestion des ressources, avec l'appui de la fondation allemande Hans Seidel.
Et quel est l'objectif de ces séminaires?
Disons que ce sont plutôt des objectifs qui sont annoncés, singulièrement renforcer le partenariat entre l'Institut des stratégies pour le développement durable et les ONG locales, redynamiser la société civile dans son rôle de promotion de la démocratie et du développement, également arriver à établir le dialogue entre la population, les citoyens et les autorités à tous les niveaux. Pour cela, les participants au séminaire ont suivi durant 48 heures plusieurs exposés. Hier, par exemple, c'était celui sur l'état des lieux du processus de décentralisation en République démocratique du Congo qui a été développé par Lazare Tshipinda, c'est un ancien ministre provincial de l'Intérieur au Kasaï oriental. Il y a le professeur Kibanda Matungila, qui lui est de cet institut des stratégies pour le développement durable, qui a parlé de l'approche et des stratégies pour le développement durable. Il a particulièrement encouragé la société civile à ne pas oublier son rôle dans l'éducation des masses. Voilà, Jocelyne.
Merci, Chris Moukande.
Radio Okapi.
À Kalemie.
Okapi.
Sur 105 FM.
Depuis la ville de Kalemie, Expedie Mwambamoubi, vous nous parlez de cette confusion qui a régné hier, mardi, à Kongolo, et cela dans le secteur de l'enseignement primaire et secondaire. Qu'est-ce qui s'est passé au juste?
Oui, Kongolo, chef-lieu du territoire de même nom, est situé à plus ou moins 380 km de Kalemie. Hier, mardi, les écoles n'ont pas fonctionné. Les élèves et leurs enseignants ont passé la journée à l'aéroport.
Et pourquoi les élèves et leurs enseignants ont-ils passé ces temps à l'aéroport?
Ils sont allés accueillir M. Mater Mwangu, le ministre national de l'enseignement primaire et secondaire. D'après l'administrateur de territoire de Kongolo, le chef de sous-division de l'ETSP affirme avoir reçu de son chef hiérarchique, il y a 4 jours, le message selon lequel le ministre Mwangu viendrait à Kongolo le 24 février, donc hier mardi. Les élèves et leurs encadreurs se sont donc déplacés pour l'aéroport. Curieusement, le ministre n'est pas venu. Et l'administrateur de territoire d'ajouter que lui-même a fait remarquer au sous-préfet que son chef hiérarchique à lui, c'est-à-dire le commissaire de district, n'était pas du tout informé de cette visite.
Et qu'est-ce que le ministre Maker Mwangu devait venir faire à Kongolo?
D'après l'autorité scolaire de Kongolo, c'était pour venir inaugurer 2 écoles construites grâce à un financement du gouvernement central. Là encore, il y a lieu de se poser quelques questions, Jocelyne. Un journaliste local qui a visité hier mardi l'une de ces deux écoles affirme que la construction des bâtiments est bel et bien terminée, mais il manque encore le mobilier. Question, Jocelyne, le ministre avait-il procédé à l'inauguration dans ce contexte? Une chose est cependant sûre, la confusion qui a régné hier à Kongolo n'a pas profité à l'enseignement.
Ça c'est sûr. Hein. Merci François Xedi Mombi pour ces informations. Pardon. Nous allons au Nord Kivu, voilà. Il n'y avait pas de transition, hein? Pas de transition, ok. On va au Nord Kivu, où la MONUSCO est en pleine sensibilisation sur la protection de l'enfant à Rutshuru. Nous en parlons avec vous, Christian Mapendano. Bonjour Christian, de quoi s'agit-il?
Bonjour Jocelyne, il s'agit en fait d'un atelier de formation de membres de la synergie des services étatiques de la protection de l'enfant, SINEP en sigle. Une synergie mise sur pied avec le support de la section de la protection de l'enfant de la MONUSCO. Et la formation entre dans le contexte du programme des îlots de stabilité mis en place par la MONUSCO Nord Kivu pour renforcer la présence des actions de l'État à Rutshuru, mais aussi ailleurs dans la province.
Et les violations des droits de l'enfant constituent-elles un problème de société dans le Rutshuru?
Effectivement, Jocelyne, vous savez que Rutshuru est une zone qui a été affectée par des conflits armés pendant plusieurs années. Et même pour l'instant, il y a encore des groupes armés locaux qui commettent des exactions diverses sur la mère et l'enfant. Et c'est pour dire que les cas de violation des droits de l'enfant sont multiples, tels que soulevés en début de la formation. C'est notamment l'utilisation des enfants dans les groupes armés, l'utilisation des enfants pour des travaux pénibles et parfois forcés dans des familles, les enfants dehors du système scolaire, l'utilisation sexuelle des enfants, les enfants en conflit avec la loi, les enfants sortis des groupes armés en grand nombre dans le Rutshuru et qui nécessitent un encadrement spécifique, et bien d'autres cas qui seront traités pendant la formation de 3 jours, et qui devra se clôturer d'ailleurs demain jeudi.
Peut-être un mot, Christian, sur les participants à la formation et les objectifs de cette formation.
Oui, les participants sont les responsables des services de l'État comme la PNC, les FRDC, l'EPSP, la jeunesse, les autorités judiciaires et certaines ONG locales œuvrant dans le domaine de la protection de l'enfant. En tant que représentants de l'État, les participants vont voir leurs capacités renforcées de manière à ce qu'ils puissent être prêts à intervenir quand les cas de protection se présentent. Ils seront désormais acteurs et non observateurs de la protection de l'enfant dans les entités administratives respectives.
Merci Christian Mapendano. Nous terminons ce tour de province en Ituri. Un hippopotame qui a longtemps sémé la panique dans la population humaine au bord du lac Albert a été finalement abattu la semaine dernière à Café, dans la chefferie de Bahema Nord. Comment s'est-il passé, Sadiki Aboubakar?
Il faut tout d'abord noter que